Jean de la Brette. L'imagination fait le reste. Chapitre 1. 20 mai. Assise à ma fenêtre depuis une heure, j'ai réfléchi longuement sans arriver à une conclusion satisfaisante. Il est vrai que je suis distraite. Mais comment ne pas voyager un peu dans le royaume de l'esprit en face d'une si belle nuit? J'oublie mes préoccupations pour admirer, puis, de mon admiration, je passe à mes soucis. Le contraste est grand, aussi grand qu'entre cette demi-clarté qui charme ma vue et le jour éclatant que le soleil verse là-bas dans des régions lointaines. Aussi complet qu'entre ce repos qui m'environne et l'agitation qui commence à régner dans ces mêmes régions. Je vois une multitude de mandarins qui s'agitent, parlent, courent à leurs intérêts, discutent les affaires publiques et privées, tandis que nous dormons ici et que moi, chétive, je philosophe en pensant à eux. Dans leur nombre, y en a-t-il dont l'esprit vagabonde comme le mien et suit le courant qui m'entraîne? Pourquoi pas? Malgré ses prétentions, l'homme est le même partout, et cette intelligence dont il parle avec fracas décrit en somme de simples cercles. N'en suis-je pas un exemple frappant? Tout le monde avant moi a pensé ce que je pense, écrit ce que j'écris, peut-être même que chacun a vu passer une foule de mandarins pensifs, songeant que l'idée d'une jeune européenne suivait la leur, et riait tout bas d'une certaine petite chose qui s'appelle, je crois, la bêtise humaine. La belle nuit, je l'aime mieux qu'un jour vif. Le jour m'attriste parfois, peut-être parce qu'il m'éblouit, et, en m'éblouissant, m'oblige à baisser les yeux vers la terre. La nuit, au contraire, une nuit étoilée et pure comme celle-ci, me fait lever les regards vers ce beau ciel dont je crois alors sonder les profondeurs. Remplie de sens mystérieux, elle est pour moi la figure la plus grande, la plus parfaite de cet infini vivant vers lequel nous devons aller un jour. Elle est le spectacle qui, mieux que notre, émeut, transporte en répondant d'une manière plus directe aux fibres intimes de notre être. Je suppose une peinture pleine de chaleur, de fougue, de coloris, mais dont les détails sont semés avec une telle profusion, exécutés avec un tel génie, que, attiré par eux, l'esprit abandonne le point principal, car il a couru d'un détail à un autre. Voilà le jour. Dans la nuit, les détails ne ressortent pas d'une façon éclatante. Loin de nuire à l'observation de l'objet dominant qui est la beauté même, ils ajoutent simplement à sa splendeur harmonieuse et sereine sur laquelle le regard reste attaché sans effort. Que de pentes différentes la pensée parcourt en quelques secondes. Pendant le peu d'instants que ma plume est restée immobile, je me suis reprise à songer au mari qu'on veut me présenter. Dirais-je oui? Je souris de mes perplexités, je souris surtout de mon ignorance absolue sur un avenir qui, dans 2 mois seulement, m'aura peut-être irrévocablement entraîné vers un but inconnu. Puis l'importun a disparu pour me laisser regarder attentivement une étoile dont les feux m'intriguaient. Subitement, elle a filé et s'est perdue dans l'espace. Le rapprochement, la déduction sont inévitables. Rien ne dit que le bonheur qu'on fait chatoyer devant mes yeux et qui ne laisse pas de m'intriguer ne sera pas comme cette étoile. Il scintillera une minute et se perdra dans je ne sais quelles régions abstraites. En attendant, si je ne veux pas être pourfendu par mon tuteur, il me faut prendre une décision. C'est très simple, je dirai non et signifierai que je n'aime pas les mariages acceptés comme le prix d'un petit pâté. Quel homme amusant à force de ne l'être pas que mon cousin. Au physique, il est bien, ni grand ni petit, mais un peu gros, ce qui fait son désespoir, parce que cette obésité naissante détruit la ligne du convenu, la ligne moyenne, la seule belle, appréciable et digne, de M. Méloy de la Platière, mon tuteur. Je suppose que Méloy est le nom véritable et que Platière s'est greffé sur lui comme on a greffé le bon abricotier du jardin sur un vieux prunier de Sainte-Catherine. Et l'abricotier a si bien prospéré qu'il ne reste du prunier qu'un tronc auquel on ne prend garde. Mais quels bons abricots! De la grosse espèce, énorme, tout jeune qu'il soit, et quand on m'appelle Mademoiselle de la Platière, je mange aussitôt en imagination un de ces fruits savoureux. Or, depuis que ma famille est devenue gros abricot, nous descendons en ligne un peu courbe, mais en ligne sûre, de Roland. Roland, l'homme politique, le ministre, pas le héros et le paladin, malheureusement. Si j'avais choisi, c'est sur ce dernier que mon choix se serait arrêté, mais le prunier avait disparu bien avant ma naissance. Je me suis souvent demandé pourquoi, lorsqu'on s'y met, on ne descendrait pas d'un paladin. C'est satisfaisant pour l'amour-propre, et au moins l'imagination peut sonner du corps comme feu Roland. Mais mon cousin n'admet pas qu'on aille mourir ainsi de cette façon bizarre au col de Roncevaux, ni qu'on soit d'une taille et d'une force extraordinaire. Il faut être comme tout le monde. Il est vrai que la mort violente du ministre sur une grande route attriste un peu ses principes. Mais il les console en leur disant qu'en 93, c'était faire comme tout le monde que de mourir hors de son lit. La seule chose qu'il ne pardonne pas à Roland, c'est d'avoir épousé sa femme, et rien n'est curieux comme la figure de mon cousin quand il reçoit des congratulations dans le genre de celle-ci. « Vous appartenez, m'a-t-on dit, monsieur, à la famille de Roland ?»« Oui, oui, parfaitement, nous sommes une branche cadette. » Parenté d'ailleurs un peu éloigné, mais authentique. Je vous en félicite. Quelle femme, monsieur, quelle femme remarquable! Jamais on n'en démord, et c'est agaçant pour un homme qui a essayé de prouver par écrit que Roland eût été Roland sans la femme odieuse qui se nourrissait de Plutarque au lieu de soigner et de manger son pot-au-feu. Au sujet de la vie féminine, toute l'esthétique de mon cousin est résumée dans cette pensée que la femme, si elle a des idées, doit les mettre à bouillir dans sa marmite avec oignons et carottes et, paisiblement assise au coin du feu, les regarder mijoter sa vie durant. Au reste, cette esthétique en vaut une autre si elle est bien comprise. Mais mon tuteur trouverait, je crois, que j'y fais un grand accroc lorsque la nuit, au lieu de dormir, je cours en Chine et demande aux étoiles le secret de mon avenir. Chapitre 2. 21 mai. Quand Monsieur de la Platière m'a demandé quel était le résultat de mes réflexions, j'ai répondu, avec un sourire discret, qu'elles avaient été profondes, mais que la conclusion ne me paraissait pas empreinte d'une très grande lucidité sur le sujet qui met dans cette maison les têtes à l'envers, la mienne exceptée. Quand je dis « tête à l'envers », c'est une manière de parler, car la tête de mon tuteur est incapable d'évoluer d'une manière aussi radicale et inconvenante. Il m'a raisonné avec l'austérité et la rigidité que Laurent eût pu y mettre, et je me disais à part moi « combien j'avais raison et que ces mandarins sont heureux ! Les voici dans le calme, admirant ce qui m'a ravi il y a 15 heures à peine. Le jour amène bien des soucis. » Néanmoins, il faut me marier. Voilà qui est enregistré dans le cerveau de mon tuteur, avec autant de soin que les paquets minutieusement ficelés qui encombrent ici placards et greniers. Tu as 23 ans, Hélène. Il est grand temps de penser à ton avenir. Je partage absolument l'avis des gens qui assurent que les choses matérielles donnent une idée exacte des caractères. En m'abîmant dans la contemplation des armoires dont mon cousin s'occupe comme s'il était une vieille dame maniaque, j'ai souvent vu son âme tout entière. Il y a beaucoup d'ordre, c'est-à-dire qu'une pile ne dépasse pas l'autre d'un millimètre, mais on éprouve un désir furieux de tout renverser pour ranger différemment. Si, en contemplant les armoires, on a le courage de boire certaines liqueurs de cassis, triomphe de mon cousin, on emporte une impression prosaïque qui est tout à fait cela, je veux dire, Monsieur de la Platière. Suis-je donc caduque ? Répondis-je en m'échauffant un peu. Ai-je le crâne dénudé, le dos voûté, la parole embarrassée ? Me suis-je plainte de rhumatisme ? Dois-je prendre des béquilles ? Me découvre-t-on enfin quelques signes de décrépitude ? Cette façon outrée d'aller tout de suite à l'extrême d'une question crispe mon pauvre tuteur. Veux-tu parler raisonnablement, Hélène, et me dire si oui ou non il faut répondre que tu acceptes des entrevues ? Il faut répondre non, tuteur. C'est parfaitement décidé. Mais alors, que veux-tu? Que te faut-il? J'y renonce. Je veux, dis-je avec gravité, un paladin ou le berger Paris. Paris est mort depuis longtemps, répondit-il avec humeur, et les paladins ne sont plus de ce monde. C'est ce que nous verrons. Ah, mon cousin, que la vie serait morne sans un berger avec lequel on puisse jouer de la flûte toute la journée. Je veux un berger. Et le voyant esquisser un geste d'impatience, je repris vivement. Eh bien, je suis bon prince, je me rabats sur un paladin. Un paladin, cousin, en uniforme, guerrier dans l'âme, frappant d'estoc et de taille, balafré en signe de ses exploits, terrible, fougueux, entassant aventure sur aventure, et filant sa quenouille au pied d'omphale, qui serait moi. Ouf, dit mon cousin en s'essuyant le front. Seigneur, ne pourriez-vous faire que ma pupille devienne muette? Conclusion, continuai-je avec volubilité. Il me faut un roman pour me décider, un roman romanesque. Une chose comme un enlèvement, un guet-apens, mes jours sauvés, non par des sbires, mais par mon baladin à la taille gigantesque, au cœur de feu, à la douceur de femme, bien qu'affirmer la douceur de la femme soit la plus étrange des sottises. Enfin, je m'arrêtai pour respirer, pendant que mon tuteur me disait de cet air austère qui me ferait renchérir sur toutes les absurdités qu'il m'est possible de débiter. C'est dans ton pigeonnier, où tu passes tant d'heures inutiles, que tu rêves des folies. Je le ferai abattre. Abattre mon donjon? Quelle horreur! C'est un misérable pigeonnier, s'écria mon tuteur impatienté. C'est un donjon, cousin. Ne touchez pas à mon donjon. Impossible de comprendre, dit-il en se frappant le front d'un air perplexe. Pourquoi d'un pigeonnier tu fais un donjon? Et c'est en tout la même chose. Nos pensées sont à l'unisson, comme peut l'être l'architecture d'un donjon avec celle d'un pigeonnier. Chapitre 3. 23 mai. N'est-il pas bizarre que le commerce avec les hommes me rende d'humeur si batailleuse quand, dans la solitude, mon esprit est parfaitement doux? Mais aussi, abattre mon donjon, le seul endroit de cette propriété qui ne ressemble pas à Roland le ministre. Sa girouette est si rouillée qu'elle refuse de tourner à tout vent, et cette particularité agace mon cousin, parce qu'il prétend qu'une girouette doit être une girouette, et moi, je soutiens qu'une girouette immobile a l'avantage de ne pas ressembler aux autres, ce qui est une supériorité incontestable. Devant cet aphorisme à sous-entendu, M. de la Platière s'arrache les cheveux. On a scindé en deux le pigeonnier, et je monte à l'étage supérieur, dont j'ai fait une retraite agréable, par un escalier en tronc brut, exécuté sous ma direction, avec une rampe à peau rugueuse qui écorche les mains. Mon cousin dit encore qu'un escalier doit être commode et ne pas induire les gens à supposer qu'ils seront cassés avant d'être en haut ou en bas. Mais moi, je trouve qu'une pointe de danger est un agréable contraste avec la vie bonasse de chaque jour. Ce n'est pas Roncevaux, évidemment, mais nous sommes si loin de ces temps charmants où l'on guerroyait non à l'aide des canons, mais bien avec sa vigueur et son courage individuel. Si j'avais voix au chapitre, je ferais mettre tous les inventeurs d'engins destructifs en prison et les armées s'enfileraient à l'épée. Hélas, tout a changé et la science est pour l'homme l'ami qui administre, d'une main experte, le pavé de l'ours. Plus d'imprévus, plus de charme, plus de pittoresque. Le compas fait chaque jour son œuvre de bourreau avec des airs si raisonnables et une marche si raisonnée que le pavé est écrasant. Ce serait une grande erreur de ne pas se révolter, de ne pas briser le pavé pour en disperser loin de nous les morceaux, afin de nous retrouver nous-mêmes avec nos folies, nos aspirations, nos fantaisies, que le compas stupide est bien impuissant à guider. Si je montais sur un toit pour y crier mes idées, Peut-être des autres toits, me répondrait-on, qu'en des temps si habiles, la science aura vite fait de ressouder les morceaux du pavé pour nous le lancer de rechef à la tête, comme si de rien n'était. Pourquoi ai-je écrit comme si de rien n'était ? Ce rien est l'essence qui fait que l'homme, regardant par-dessus la science et le compas, voit d'autres horizons. On s'aperçoit que je suis encore en face d'une nuit tiède et inspirante, car aussitôt, mes idées prennent une tournure grave. L'atmosphère n'est pas tiède seulement, mais imprégnée d'odeurs fortes qui me plaisent et me grisent. Mes amis, les papillons, viennent se roussir à ma bougie, se traînent ensuite péniblement sur ma table et seraient bien empêchés, ainsi éclopés, de retourner au grand air. Tel l'homme à qui la science a roussi ou coupé les ailes, son champ d'observation est étroit et il ne connaît plus les espaces infinis. Mon style tourne au Chateaubriand. Tel un taureau furieux, etc. J'ai toujours pensé que le bonheur escaladerait mon donjon pour venir m'y chercher. Aussi, je frémis quand on parle de l'abattre. Il me semble que ce serait abattre du même coup, je ne sais quoi, auquel vont mes aspirations capricieuses. Superstition ou non, j'aime la pensée du bonheur entrant par la fenêtre de mon pigeonnier pour rompre les chaînes de mon imagination captive et m'emporter loin du monstre, comme jadis Persée agit galamment avec Andromède. Le monstre, c'est la porte verrouillée sur la vie. J'essaie bien parfois de pousser les verrous, ils résistent et mes doigts s'écorchent en vain. Alors je regarde par les fentes, mais elles sont étroites et je ne vois qu'une forme vague, certainement celle de Persée, lequel, quand les dieux en auront ainsi décidé, abattra la porte d'un grand coup de sa grande épée. Aussitôt, sans doute, un être, insaisissable jusqu'alors pour moi, entrera avec lui et développera à perte de vue le rayon visuel d'Andromède à mesure que Persée dénouera les liens qui empêchent la captive de s'envoler. Si un indiscret lisait par-dessus mon épaule, peut-être trouverait-il très libre mon interprétation du mythe antique. Mais j'aimerais à savoir quelle puissance humaine a le pouvoir de m'empêcher d'être Andromède si la chose me convient. Ce n'est pas le compas qui régit la pensée, mais la belle, la divine fantaisie, et amour en soit loué, comme j'eusse dit à l'hôtel de Rambouillet. Chapitre 4. 25 mai. Ce matin, M. de la Platière m'a dit « Allons, voilà une insupportable petite guerre qui va commencer. En cette saison, on n'y comprend rien. » « Et les champs ensemencés ?» demandai-je. « Précisément, on a choisi un rayon peu étendu, qui est le nôtre, parce que nous n'avons autour de nous que des terres couvertes de bruyère. C'est un essai, m'a-t-on dit, en attendant les grandes manœuvres. » « Tant mieux, ai-je répondu, les cavaliers et les fantassins vont animer notre aride paysage. » « Nous allons être envahis, grommela mon cousin. Des soldats à coucher dans les granges, des officiers à coucher au château, un dîner ou deux, peut-être trois à offrir, c'est agréable. »« C'est absolument charmant. » »« Oui, je sais que tu rêves toujours plaisébos. » »« Quel signe de notre plate époque ! Mon tuteur appelle plaisébos des lys à préparer et quelques volailles à rôtir pour les livrer à l'appétit vorace de nobles guerriers affamés. » Et pendant que nous gardions le silence, je rêvais à ce débilitement dont parlent les livres et les journaux, qui font d'ailleurs ce qu'ils peuvent pour le développer. Car n'est-il pas singulier que, pour relever le moral d'un malade, on lui répète sur tous les tons qu'il ne peut pas s'en tirer ? Enfin, c'est peut-être une découverte nouvelle que de comprendre le sens commun à rebours. Dans je ne sais quelle œuvre de Victor Hugo, un personnage quelconque, pour se consoler de la sottise des hommes, écoute avec ivresse le vent qui passe. Ainsi agissais-je en écoutant les lamentations de mon cousin. Car les feuilles qui enveloppent les murailles de ma tour parlent sans cesse, comme des âmes qui s'agitent quand la grande voix se fait entendre. Mes feuilles sont larges, bruissantes, d'un vert pâle. J'ignore à quelle espèce elles appartiennent et ne désire pas l'apprendre. Est-il rien de plus impatientant que cette manie de tout savoir et de tout préciser ? Que m'importe à moi que l'oiseau qui passe soit un aigle ou un pauvre épervier, si, dans le battement de ses ailes, je vois l'éternel frémissement de la vie et de la poésie ? Qu'importe que les nuages s'appellent cirrus ou nimbus, si, dans leur course, ils emportent bien loin ma pensée ? Dès aujourd'hui, Hélène, tu t'occuperas de tout préparer. Combien aurons-nous d'officiers ? Puis-je le savoir ? Ils sont capables d'être une douzaine. C'est œuvre de patriote de les recevoir à bras ouverts, cousin. Mais mon tuteur pense que le temps des patriotes est passé, car il s'est écrié « Cette œuvre assommante !» Et il a continué de protester jusqu'à ce que je l'arrête en disant « Écoutez comme elle parle !» Elle ? Qui, elle ? Mes feuilles, des folles qui se meuvent docilement à tous les souffles et sont par conséquent plus sages dans leur insouciance que toute la sagesse des tuteurs. Mon cousin a secoué, en signe de mépris, non la poussière de ses sandales, puisque la mode en est passée, mais la cendre du cigare qu'il vient fumer chaque jour dans ma retraite, à laquelle, sans en convenir, il trouve des qualités. Puis il s'est levé en disant d'un ton solennel « Occupe-toi des chambres, des provisions, et puisse ces occupations pratiques te mettre du plomb dans la tête. » « Du plomb ? J'en ai une quantité, mais il n'est pas de la même fabrique que celui de Monsieur de la Platière. » « Ai-je trotté, mon Dieu, aujourd'hui, pour faire balayer, épousseter les chambres, les épousseter moi-même, regarder secouer les couettes si vieilles que la plume s'envolait ? Ai-je regardé s'envoler avec elles tout le plomb que peut contenir ma cervelle ? La tentation était trop forte, pendant qu'armée d'une grande aiguille, j'ai désabouché les trous que le temps a fait dans le coutil. » D'où venait-il ce duvet ? Et quel mortel avait mangé les oies qu'il avait livrées ? Quel rêve très doux ou quels cauchemars affreux avaient sommeillé sur la plume qui semblait, comme mes pensées, ravie de fuir leur prison prosaïque. Après cela, prosaïque n'était pas le mot exact, et j'en convins aussitôt, car ce coutil a été tissé par des mains calleuses qui appartenaient à un être pensant, agissant, aimant, à l'homme enfin, la plus belle des créatures, quoiqu'elle soit souvent si laide. Que de pensées profondes à propos d'une plume et de coutil ! Je dus m'arrêter, effrayé, de peur d'un entraînement. Il est vrai que mon tuteur, qui s'approchait, m'eût repêché dans les courants dangereux. J'aime te voir occupée ainsi, Hélène. Ces travaux pratiques matent l'imagination. Et moi, j'en suis ravie. Ah, tuteur, ce vieux duvet en dit bien long, plus long que les feuilles de ma tour. Avez-vous songé quelquefois à l'époque où ces pauvres oies ont été plumées ? Quelles pensées agitaient l'esprit de l'homme qui a tissé le coutil que je raccommode en ce moment ? Il a pensé qu'il fabriquait du coutil et qu'il gagnait son pain, dit mon cousin avec impatience. Vous n'en savez rien, absolument rien, tuteur. Il pouvait être poète, rénovateur, socialiste. Il songeait peut-être à vous tordre le cou pour ne plus fabriquer de coutil, et cette idée a du bon, pour lui j'entends. Mais, soupirai-je en enfilant ma grande aiguille, le temps l'a fauché avec toutes ces idées dont personne n'a cure aujourd'hui, excepté moi. C'est ainsi, cousin, que l'homme passe, et c'est aussi qu'il a tout le prestige que je découvre, soit dans un vieux morceau de coutil, soit dans... le Colisée, par exemple, car des ruines sont toujours des ruines, qu'elles soient pierre, homme ou coutil. Mon tuteur est parti, la main appuyée sur son front, comme ce pauvre petit Twemlow qui n'arrive jamais à trouver l'accord entre ses pensées et celles du monde. On peut affirmer que le général a eu la meilleure des inspirations en voulant guerroyer autour de nous. Sur une étendue de 3 lieues, ce ne sont que petits sentiers à travers des roches et des ajoncs, que collines couvertes de bruyères roses et semées de bouquets de pins. Quand, par un beau clair de lune, comme ce soir, la lumière glisse entre les pins, je vois des titans qui paraissent regarder en pitié le petit ciron que je suis, car, me répète-t-il chaque soir avec dédain, vous serez plus éphémère que notre tronc robuste et que le doux rayon de lumière qui, en accusant les ombres, nous fait géants. » Alors je me détourne avec humeur de ces orgueilleux et je rêve devant les vapeurs blanches qui passent entre les ajoncs et s'étendent sur les bruyères. Je songe au mystère de la nuit qu'elle voile, qu'elle protège. Je rêve à la vie créatrice, plus mystérieuse encore, qui s'échapperait à leur vue de l'âme d'un poète. Jamais terrain ne fut mieux choisi pour les mouvements d'une armée.